France Culture.
Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Madagascar, Népal, Maroc, Bulgarie, Pérou et bien d'autres. Depuis l'automne 2025, des mobilisations de jeunes se revendiquant de la génération Z apparaissent dans plusieurs pays avec des mots d'ordre très concrets sur la dignité, les services publics, la corruption, une organisation qui passe beaucoup par les réseaux sociaux et un signe de ralliement qui circule d'un continent à l'autre, le drapeau de One Piece. On y reviendra. Mais les issues, elles, ne se ressemblent pas entre répression et procès, démission politique, récupération et retours autoritaires, tandis qu'en Occident, une partie de cette jeunesse peut aussi se tourner vers des offres conservatrices et identitaires. Alors, que recouvre vraiment l'étiquette Gen Z ? Pourquoi certaines mobilisations produisent-elles un effet politique et d'autres s'éteignent ? Qu'est-ce que ces séquences révèlent de l'état de la démocratie ? Un invité ce soir pour nous éclairer, Jean-François Bayard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, politiste, professeur à l'IHEID de Genève. Et vous avez fait paraître l'ouvrage intitulé « L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique » qui est apparu en 2022 aux éditions de La Découverte. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du Soir.
Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent, c'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. On en a assez de la classe politique. On en a assez qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ils sont corrompus. On en a assez. On exige qu'ils partent tous sans exception.
En ce qui concerne la génération Z, nous n'avons pas de chef. Chaque personne fait partie du peuple et chacun est le leader de soi-même. Lorsque nous prenons une décision, nous en discutons et votons sur notre plateforme. La majorité l'emporte et nous suivons collectivement cette décision.
C'est pas un nouveau Premier ministre qu'on veut. C'est un changement de système.
On a demandé l'eau et l'électricité pour que chaque famille puisse manger à sa faim. C'est ça la demande. Et le président, c'est juste quelqu'un qu'il faut changer. Et aussi tout le système qu'il faut changer pour que tout le monde puisse savoir ça.
Et on l'a dit, hein, cette année, en 2025, à Madagascar, au Népal, au Maroc, en Bulgarie, au Pérou, en Indonésie, dans d'autres pays, des révoltes et des révolutions ont eu lieu. On a lu, entendu beaucoup que ces révolutions étaient portées par la génération Z. Commençons par une définition démographique avec vous, Jean-François Bayard. Qu'est-ce que la génération Z ?
Alors, la génération Z, on considère que ce sont les gens qui sont nés entre 1993, 1995 et 2010. Ils sont donc jeunes, dans des sociétés très jeunes, et ça il faut quand même le rappeler, c'est important. Donc au fond, la jeunesse n'est pas si exceptionnelle que cela dans ces sociétés, elles sont majoritairement composées de jeunes. Ce sont des générations qui, du fait de leur âge, maîtrisent parfaitement les instruments numériques, d'où leur capacité de mobiliser dans les différentes péripéties, les différents événements que vous avez évoqués. Je crois que là, on a déjà, et puis alors effectivement, une symbolique globalisée, le pavillon noir, certains vêtements, etc. Donc on a effectivement un phénomène qui présente une certaine cohérence, mais que je vais immédiatement relativiser dans le courant de l'émission, j'imagine.
Alors allons-y justement, commençons par relativiser. On reviendra évidemment sur ces traits communs, ces cohérences qui traversent vers ces différents mouvements de révolte, mouvements révolutionnaires, mais est-ce que, en tant que politiste, en tant que sociologue, Jean-François Bayard, c'est une chose féconde que d'approcher l'ensemble de ces mouvements politiques et sociaux par le prisme de ce concept unique, la génération Z ?
Il me semble très réducteur. Il a une certaine utilité. Par exemple, l'agilité numérique, elle est impressionnante. On a un collègue, Olivier Vallée, grand spécialiste de Madagascar, a parlé d'artillerie numérique par laquelle cette fameuse génération Z a complètement court-circuité les capacités répressives et les capacités de surveillance de la principale police politique. Et effectivement, parvenu à balayer le régime établi en quelques semaines. Donc là, c'est cette force de mobilisation, des mouvements également qui sont acéphales, qui ne veulent pas de chef. C'est ce qui fait à la fois leur force, mais nous le verrons assez rapidement, leur faiblesse.
Bon, mais est-ce que c'est bien cohérent dans le même temps de comparer, de rapprocher la jeunesse malgache et la jeunesse bulgare ?
Non, bien sûr. On peut même prendre un exemple concret. Donc, on va parler de génération Z, par exemple, à propos de la Tunisie ou de l'Égypte, la révolution arabe de 2011, ou du Sénégal, le mouvement Yanamar, très très proche de ces thématiques, la dignité, le refus de la corruption, la protestation contre les déficiences du service public. Donc, vous pouvez parler de génération Z, mais si on s'en tient au monde arabe, on pourra également utiliser une catégorie spécifique à ces sociétés, qui veut dire d'ailleurs exactement la même chose, d'une certaine manière. Chebab, ça veut dire les jeunes. Une fois qu'on a dit les jeunes, on n'a pas dit grand-chose, parce que les Chebab en Somalie sont les djihadistes. En Tunisie, ce sont les jeunes qui se sont soulevés en décembre 2010, janvier 2011, et là, on va plutôt désigner les jeunes déshérités des provinces de l'intérieur. Et puis, les Chebab, ce sont également les jeunes palestiniens de l'intifada. Donc, même dans le monde arabe, on a des catégories de Chebab, de jeunes, très différentes. Donc, ce qui me gêne dans cette catégorie générique de la génération Z, c'est qu'elle aplatit l'historicité propre des sociétés. Évidemment, vous rappeliez que je fais de la sociologie historique et qu'on parlait du politique. Ça me fait mal.
Bon, pour tenter quand même de défendre un tant soit peu le concept de génération Z, si on l'aborde par un autre sens, est-ce qu'il existe entre ces différents mouvements à travers le monde une conscience d'appartenir à une génération commune? Est-ce que ce truchement-là permet de mieux comprendre peut-être l'emploi, la mobilisation du terme de génération Z?
Il y a une conscience numérique, et aujourd'hui la conscience politique est très largement numérique.
Qu'est-ce qu'une conscience numérique?
Une conscience politique qui est médiatisée par les catégories et par... excusez-moi, j'ai un félin dans la gorge. Par les catégories et la pratique quotidienne des instruments numériques. Donc je pense que il y a une véritable conscience politique qui est numérique, qui est digitale, exactement comme, par exemple, entre les deux guerres, les gens avaient une conscience plus livresque du politique. Ça, c'est un point commun qui inspire des modes d'action et des modes de mobilisation convergents. Il y a l'illusion de la jeunesse, qui est très largement une illusion, on va dire, physique. Bon, ce sont des gens jeunes, je le répète, des sociétés très très jeunes. Donc les médias vont s'emparer de cela, ça fait de très belles photos sur écran glacé, comme on aurait dit jadis, sur
papier glacé.
Il y a même une certaine forme d'érotisation de la mobilisation sociale, parce que ce sont des jeunes gens qui sont très beaux, et ça fait de très très belles images, hein, le contraste entre la belle jeune fille ou le beau jeune homme face à d'horribles militaires surcasqués et surarmés, etc., etc. Mais une fois que l'on décortique cette catégorie de la jeunesse, naturellement, elle est clivée selon des critères de genre. Hein, les jeunes femmes, c'est pas exactement la même chose que les jeunes hommes. Il y a des critères de classe. Il peut y avoir des clivages d'ordre religieux, etc., etc. Et l'idée même de la jeunesse est quand même une idée très classique dans l'histoire politique. Tous les mouvements de décolonisation ont été dominés par la figure de la jeunesse. Les jeunes Turcs, les jeunes Ottomans, les jeunes Sénégalais, le jeune Destour en Tunisie, etc., etc. Et ce qui remonte aussi, d'une certaine façon, par exemple, au style politique du romantisme en Europe au XIXe siècle, ou alors plus tard, à la fin du XIXe siècle, le mouvement des Van der Vogel en Allemagne, qui étaient des mouvements de jeunes.
Mais je reviens tout de même un instant, Jean-François Bayard, sur cette conscience générationnelle, vous l'avez mentionné. Ils ont, ces jeunes, à travers ces mobilisations que l'on retrouve, on le redit, hein, Madagascar, au Népal, au Maroc, en Bulgarie, au Pérou, en Indonésie, donc dans des pays d'une diversité incroyable, ils ont pourtant un symbole commun, le drapeau de One Piece, hein, ce manga le plus vendu à travers le monde. Est-ce que là aussi, le fait d'utiliser ce symbole, de le mettre en commun, ce n'est pas la conscience d'appartenir peut-être un mouvement qui a des liens et des liens très forts à travers les frontières?
C'est une conscience illusoire et sans doute éphémère. Ce fameux pavillon noir, il fait partie effectivement de ces emblèmes, de ces pratiques culturelles qui sont globalisées, mais qui vont avoir un sens très différent d'une société à l'autre. Hein. Par exemple, le jean qui tombe sur les fesses chez les adolescents en Europe n'a pas du tout le même signe qu'il a pu avoir aux États-Unis, où il s'agissait essentiellement essentiellement dans la population noire de rappeler la condition carcérale et de protester contre cette condition carcérale. Donc vous pouvez avoir un signifiant relativement globalisé, mais des signifiés très divers et qui sont précisément tributaires de l'historicité des sociétés. Et les revendications, alors je pense que vous avez évoqué dans votre présentation une notion qui était extrêmement importante, qui est la notion de dignité, et qui était au cœur même d'ailleurs de la revendication de l'indépendance, de la décolonisation. Mais cette revendication de la dignité qui est portée par la quasi-totalité de ces mouvements est très différente d'un pays à l'autre. Et de ce point de vue, pourquoi, par exemple, on va parler de Génération Z au Maroc ou à Madagascar, aux Philippines, etc., et pas, par exemple, à propos du mouvement des banlieues, des émeutes de banlieues en France en 2024.
Alors, qu'est-ce qui les différencie, justement ?
C'est un regard extrêmement ethnocentrique et très normatif, c'est-à-dire que la génération Z, ce sont des revendications sympas, des revendications si possible assez loin de nous.
Par sympa, vous voulez dire démocratique.
Sympa, ce sont, oui, alors aspiration à la démocratie, aspiration lutte contre la corruption, etc., etc. Mais c'est quand même assez éloigné. Au fond, on vit un petit peu ces mobilisations comme certains, dans les années 1960, faisaient la révolution par Cubains ou par Vietnamiens interposés. Donc aujourd'hui, on va d'une certaine manière sublimer, exalter, regarder avec beaucoup de sympathie ces mobilisations qui sont à bien des égards remarquables. Je voudrais pas donner le sentiment que je les snob. Mais lorsque nous avons des mouvements comparables chez nous, on va les traiter de gauchistes, d'extrémistes, voire de communistes.
Et dans le même temps, pour tirer le fil que vous avez commencé à tenir, comment expliquer que dans le même temps, on ne considère pas comme génération Z, on ne qualifie pas de génération Z d'autres mouvements plus conservateurs mais portés par des jeunes dans différents pays. Je pense par exemple à des mouvements de jeunesse en Afrique de l'Ouest.
Et essentiellement parce que cette notion et ce prisme sont très normatifs. Et vous avez entièrement raison, la génération Z en Afrique de l'Ouest, elle est conservatrice, voire rigoriste, très nationaliste, assez peu féministe, et c'est un euphémisme, et généralement homophobe. Alors on le voit dans les régimes qui ont connu des...
Vous y allez à gros traits, là, ce n'est pas... ce n'est question, ils ne sont pas tous évidemment comme ça, mais en tout cas...
Non, mais c'est quand même un élément clé. Et par exemple, cette génération Z, elle a applaudi les putschistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et électoralement, elle soutient au Sénégal un mouvement islamique qui est très rigoriste. De même, aux États-Unis, MAGA, c'est très largement une population jeune, et les héros, comme par exemple Charlie Kirk, bon, lui était né en 93, si mes souvenirs sont bons, mais enfin, il frôle la génération Z, il frôlait la génération Z, et son public était un public très jeune.
Et pourtant, les médias occidentaux ne les gratifient pas du sésame de génération Z. Direction Jakarta, en Indonésie, je voudrais vous faire entendre quelques témoignages de cette jeune sans révolte.
J'essaie de faire comprendre à ma génération que tout est politique. Le régime, l'oligarchie, ils essaient de nous laisser dans le flou. On lutte contre ça. Voilà, ça, c'est l'extrait d'un direct que j'ai fait pendant une manifestation à Jakarta. J'ai dit que le gouvernement devrait avoir peur qu'on fasse comme la Révolution française. Ils volent l'argent du peuple pour vivre une vie de luxe. Et ça met ma génération en colère.
Pourquoi c'est si difficile de vivre dans mon pays, de trouver un boulot? J'ai envoyé 200 CV, mais on me dit que je suis trop qualifiée. Et le gouvernement n'en a rien à faire de nous.
Tentons quand même de rapprocher ces mouvements. Selon la sociologue Cecilia Van de Velde, les colères de la génération Z, quels que soient les pays, partent du concret. Santé, eau, électricité, sécurité, corruption. C'est le quotidien même qui devient politique, Jean-François Bayard.
Oui, il devient politique, mais il a de la peine à passer véritablement aux politiques et à reconfigurer les rapports de force, les institutions de manière durable.
C'est-à-dire, on est dans la déclaration d'intention ?
On est dans la déclaration d'intention, on est dans l'engagement, et souvent physiquement très courageux, mais le passage aux politiques ne se fait pas. Alors là, on peut prendre quelques exemples concrets, par exemple la Tunisie. Incontestablement, ce sont les jeunes qui ont ébranlé le pouvoir de Ben Ali en décembre 2010, janvier 2011. Mais si les choses n'avaient pas été mises en forme par des syndicalistes du syndicat unique qui était très directement articulé au régime de Ben Ali, il ne se serait rien passé. De la même manière, on voit bien comment au Maroc, la génération Z est incapable d'articuler ses revendications en termes de dignité, en termes de services publics, à un travail commun, à la mobilisation, à l'implication des partis politiques. Et donc, le mouvement de la génération Z au Maroc, il s'est très largement dissous dans la grande fête footballistique qui domine aujourd'hui le royaume.
Et dans le même temps, est-ce que ces mouvements-là, dans ce qu'ils représentent, dans leur diversité également, ne représentent-ils pas de formidables laboratoires démocratiques ? On voit l'usage, le recours, vous l'avez dit, à certains outils numériques tels que Discord pour voter sur des sujets extrêmement précis, pour prendre des décisions, pour tenter de dessiner des mouvements sociaux horizontaux. Est-ce qu'on n'a pas là une nouvelle manière de faire de la politique, ou en tout cas un apprentissage ?
C'est un apprentissage, mais dont on voit mal le débouché politique. Vous parliez de la Bulgarie tout à l'heure. Très rapidement, c'est le pouvoir des oligarques que l'on voit se profiler derrière l'énorme mobilisation de la génération Z, qui effectivement a obtenu la chute du gouvernement. À Madagascar, très rapidement, la génération Z s'est fait voler le ballon par l'armée. Et l'armée, c'est quand même le grand
acteur. Le président malgache a quand même été contraint, exfiltré par la France, de quitter le territoire.
Bien sûr, mais trois semaines plus tard, l'armée a pris le pouvoir. Et l'armée, à Madagascar, depuis 1975, c'est l'acteur dominant de la vie politique de l'île. Et on pourrait multiplier les exemples. En Égypte, c'était la restauration autoritaire extraordinairement brutale, après la grande mobilisation de la place Tahrir, par l'arrivée au pouvoir du maréchal Sissi. Et là, l'armée, qui est le cœur du système politique nassérien, et en tout cas post-nassérien, a repris le contrôle des situations. Donc pour l'instant, cette génération Z n'est pas parvenue à véritablement consolider ou à institutionnaliser les transformations démocratiques dont potentiellement elle est la porteuse.
Dans ces mouvements, Jean-François Bayard, est-ce que vous discernez un trait commun quant à la relation de ces jeunes, de cette génération Z, à l'égard des générations plus anciennes ? Est-ce qu'elles s'opposent à elles, ou bien elles parviennent à intégrer les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires à la démarche politique qu'elles entreprennent ?
Les choses sont, à mon avis, très variables d'une situation à l'autre. Par exemple, au Bangladesh, on est allé effectivement chercher un prix Nobel de l'économie tout à fait respecté, respectable, bien chenu, qui a toutes les peines du monde à guider politiquement le pays. Et à mon avis, l'heure de la restauration autoritaire sonnera assez rapidement. Au Sri Lanka, on a obtenu un changement démocratique dont il faudra voir s'il se maintient lors des prochaines élections. Donc il peut y avoir des transformations de ce genre et effectivement des espèces d'alliances entre la mobilisation juvénile d'une part et d'autre part des éléments des élites. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la plupart de ces pays, naturellement, les élites, les caciques, les personnes des générations plus anciennes vont traiter ces mobilisations exactement de la même manière dont la société française traite ou considère ou déconsidère la mobilisation des banlieusards, en les traitant de barbares, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer que, par exemple, la génération Z bénéficie d'un élan de sympathie unanime à Madagascar, au Maroc, en Tunisie, etc. Et les générations les plus anciennes, et en tout cas les élites établies, ne voient naturellement que nuisances, scandales et dangers extrêmes dans l'entrée en politique de cette jeunesse.
Comment liez-vous cette lumière portée sur la génération Z, Jean-François Bayard, à une autre tendance tendance de fond bien documentée, celle de la montée de l'extrême droite, du conservatisme dans, je distingue d'ailleurs les deux, hein, l'extrême droite et le conservatisme, dans une autre jeunesse du monde, notamment américaine, notamment occidentale. Est-ce que l'un et l'autre peuvent tenir ensemble, les deux analyses ?
Absolument. Et pour moi, le phénomène majeur aujourd'hui, c'est la révolution conservatrice à l'échelle mondiale, que l'on voit aux États-Unis avec MAGA, que l'on voit dans un certain nombre de pays européens, de plus en plus en France, mais évidemment en Hongrie ou en Italie, Narendra Modi en Inde, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, etc., etc. Et puis l'Afrique de l'Ouest à laquelle vous faisiez allusion. Et de ce point de vue, la génération Z est parfaitement compatible avec la révolution conservatrice. Je voudrais par ailleurs rappeler, alors je reprends le terme de révolution conservatrice parce que c'est celui qui était utilisé pour caractériser la droite nationaliste dans les années 20-30 en Allemagne, en Italie notamment, mais il faut bien voir que le fascisme, le national-socialisme ou en deçà de ces mouvements extrémistes, la révolution conservatrice était portée dans ces pays par des gens très jeunes. Mussolini était presque un vieillard à l'âge de 32 ans quand il prend le pouvoir. Tous ces militants étaient des vingtenaires. De la même manière, dans les années 20, dans les années 30, la jeunesse s'est très largement adhéré à la droite nationaliste, à la révolution conservatrice et au national-socialisme. Bah, aujourd'hui, on voit exactement la même chose. Par exemple, en Russie, le Z, c'est le Z de l'opération spéciale contre l'Ukraine. Les chars qui ont envahi l'Ukraine en 2024 portaient la lettre Z. Et vous avez aujourd'hui une jeunesse nationaliste en Russie qui soutient l'opération spéciale. La jeune Z libérale, elle affiche le camp quand on a eu la possibilité.
Mais mon argument, Jean-François Bayard, était un peu différent. Il consistait à dire, est-ce que dans le fond, la lumière mise sur ce concept-là, celui de génération Z, comme si une jeunesse mondiale se soulevait d'un seul et même mouvement contre les régimes antidémocratiques, est-ce que il n'occulte pas une autre réalité plus profonde qui travaille les sociétés bien plus en profondeur, qui est la montée justement de ces mouvements conservatistes ?
Si, enfin, je
conservateur d'ailleurs.
Je pense que les deux choses peuvent être effectivement très imbriquées. Si vous regardez la société française, on voit la montée d'un catholicisme conservateur que représente grosso modo l'empire de Vincent Bolloré, et on voit tout le catholicisme de gauche s'est affaibli, voire s'est effondré. Et dans ce catholicisme conservateur, on voit se redéfinir une conception de la masculinité qui renvoie très largement aux idées de la révolution conservatrice. Et ça, c'est porté par des jeunes, c'est porté par des jeunes hommes. De la même manière, la révolution conservatrice en Afrique de l'Ouest, elle est portée par des jeunes, elle est une interrogation sur la masculinité, très largement, et cette interrogation par la masculinité, elle est très largement également médiatisée par les armes, par la dignité que donne la maîtrise des armes, et aujourd'hui, la jeunesse en Afrique de l'Ouest, eh bien, elle est largement religieuse, djihadiste, ou alors ce qu'on appelle les chasseurs, c'est-à-dire les milices qui s'opposent aux djihadistes. Mais l'enjeu, c'est la lutte agraire, c'est la maîtrise du foncier. Et donc là, on a des jeunes qui définissent leur masculinité par le port des armes et pas par le bulletin de vote.
Direction, cette fois, Madagascar.
Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est qu'il parte. On veut un changement.
Ils sont corrompus, ils sont incompétents. Nous avons plein de jeunes, c'est pour ça que nous, la génération Z, nous, on se mobilise pour qu'on puisse vraiment être au cœur des actions. Donc j'ai soif, j'ai faim, j'ai des rêves, mais je ne peux pas les réaliser. Tout simplement qu'on me rend la tâche difficile. Donc on a faim, on a soif. On veut notre liberté, tout simplement.
16 ans au pouvoir, hein. On lui a donné maintes et maintes chances. Hein. Il nous fait des promesses différentes. Il ne pense qu'à son intérêt et à l'intérêt de sa propre famille. Face à Hayati, c'est la famine qui nous tue.
Je fais un pas en arrière, Jean-François Bayard, car c'est un point de votre analyse que je trouve intéressant. Quel rôle a joué le Covid, la crise sanitaire de 2020, dans justement la montée en puissance de ces mouvements sociaux et politiques portés par la génération Z ?
Le sociologue allemand Karl Mannheim, donc années 20, qui justement a beaucoup réfléchi sur cette notion de génération, parlait de situation générationnelle. Et pour lui, la situation générationnelle, c'était la Grande Guerre, celle précisément qui sera la matrice de la révolution conservatrice. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons parler d'une situation générationnelle. La situation générationnelle, elle se caractérise, nous l'avons déjà dit, par le numérique. C'est une génération qui pense politiquement et socialement à travers le numérique, mais c'est effectivement une génération qui a subi de plein fouet le Covid, le confinement, et un moment très important de sa vie, puisque l'adolescence, donc le l'âge du jeune adulte, c'est celui par lequel on définit ses relations sociales, ses relations affectives, on s'émancipe de ses parents, on explore sa sexualité, et tout cela a été profondément distordu, cette expérience de vie a été profondément distordue par le confinement, et par un confinement qui très souvent a été appliqué de manière très violente dans les quartiers les plus populaires. Pour moi, par exemple, les émeutes de 24 en France, on ne peut les comprendre que par cet épisode du confinement extraordinairement autoritaire. Et je crois que c'est un des points communs à la génération Z, que nous avons de la peine à prendre la mesure et l'importance. Et ça, c'est un point absolument décisif. Alors, ça ne concerne pas que la génération Z, mais je crois que nous ne pouvons comprendre notre actualité la plus immédiate que si l'on garde en mémoire cet épisode traumatique du confinement.
Merci beaucoup Jean-François Bayard, sociologue, politiste, professeur à l'IHEID de Genève. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir. Merci également à celles et ceux qui ont fait imaginer, penser cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, Inès Bourfatic, Sébastien. À la réalisation ce soir, comme toute la semaine, François Richer.